Bonjour et merci d'être là. Aujourd'hui, on va décortiquer un scénario hypothétique, mais qui, franchement, fait un peu froid dans le dos.
Oui, bonjour. On parle de cet accord commercial qui aurait été conclu fin juillet 2025 entre l'Europe et les États-Unis.
Exactement, cette rencontre imaginée entre Ursula von der Leyen et Donald Trump en Écosse. Et l'enjeu, c'est rien de moins que le destin économique de 450 millions d'Européens.
Tout à fait. Et pour analyser ça, on se base sur une source, une vidéo de Money Radar, qui détaille ce possible accord. Notre objectif, c'est de comprendre les points clés qu'elle soulève et surtout les implications possibles.
Entrons dans le vif du sujet. D'après cette source, le cœur de l'accord, ce serait d'abord des tarifs douaniers. Et pas des petits. 15% sur quasiment tout. Voitures, luxe, même l'agroalimentaire. Ça paraît...
énorme.
C'est présenté comme ça, oui, un changement majeur.
La source met ça en perspective avec un autre accord, fictif aussi, avec le Royaume-Uni. 10% sur les voitures, mais zéro sur l'aérospatiale. Là, non. Là, ce serait 15% pour tout le monde. Enfin, pour l'Europe. Voilà.
C'est décrit comme la stratégie Trump 2.0. Ces 15% deviendraient le nouveau standard mondial, non négociable. Apparemment, dans ce scénario, ce serait déjà appliqué au Japon, au Vietnam, une sorte de nouvelle norme vue par Washington.
D'accord. Mais il n'y a pas que les tarifs, si j'ai bien compris. La source parle aussi d'engagement d'achat. Et là, les chiffres donnent le vertige. 750 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié américain sur 3 ans seulement. Oui, et là, les analystes cités sont sceptiques.
Ah bon? Pourquoi?
Parce que techniquement, ça semble quasi impossible à absorber pour l'Europe. Ça voudrait dire tripler les importations actuelles de GNL américain. Les infrastructures, les ports, les méthaniers, ça ne suivrait pas.
Donc c'est irréaliste.
En tout cas, très difficilement réalisable selon la source. Et elle suggère que ça pourrait devenir un moyen de pression constant. Si l'Europe n'atteint pas les objectifs, hop, les tarifs pourraient augmenter. Un levier potentiel pour Trump.
Un vrai casse-tête. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le volet militaire.
Oui. 150 milliards de dollars d'équipements militaires américains. On parle de F-35, de systèmes Patriot.
Ce qui, j'imagine, aurait des conséquences sur nos propres projets de défense en Europe.
Exactement. Selon l'analyse, ça sonnerait un peu le glas de l'ambition d'autonomie stratégique européenne. Le SCAF, par exemple, ce projet d'avion de combat franco-germano-espagnol, serait très menacé. On voit se profiler une dépendance sur plusieurs plans, en fait.
Parlons un peu des conséquences économiques immédiates que décrit la source. Ça secouerait les marchés.
Oh oui. Chute de l'euro anticipée, les actions des constructeurs automobiles européens, Volkswagen, Stellantis, tout ça plongerait, logique, avec 15% de tarifs.
Et à l'inverse, aux États-Unis?
À l'inverse, les producteurs de GNL américains comme Cheniere Energy verraient leurs actions grimper. La source mentionne plus 5% pour Cheniere.
Et il y a un point important sur ce GNL américain, son coût. Oui, et c'est un détail crucial. Ce gaz coûterait, selon l'analyse, 3 à 4 fois plus cher que l'ancien gaz russe dont on dépendait. L'impact sur les factures d'énergie des entreprises et des ménages européens serait direct et douloureux. Bon, si on essaie de voir qui sont les gagnants et les perdants dans ce scénario, d'après la source, le tableau est assez contrasté, non?
Très contrasté, oui. Les gagnants sont clairement identifiés. Les producteurs de GNL américains, l'industrie de défense américaine, on pense à Lockheed Martin, Raytheon.
Et l'Allemagne.
La source dit qu'elle s'en sortirait moins mal.
Pourquoi?
Parce qu'elle a beaucoup d'usines aux États-Unis. Donc, même avec les tarifs, une partie de sa production aurait toujours accès au marché américain, ce qui est jugé vital pour elle. Le dollar pourrait aussi être un gagnant.
D'accord. Et du côté des perdants, là, la liste semble longue et assez inquiétante.
Absolument. En première ligne, les PME européennes. Celles qui ne peuvent ni absorber les surcoûts, ni délocaliser facilement. Ensuite, le secteur du luxe, très important pour la France. L'industrie de défense européenne, évidemment. Et certains pays, plus que d'autres.
Oui, la source cite l'Irlande pour son secteur pharmaceutique. Les Pays-Bas, à cause de l'importance de leurs ports, comme Rotterdam. La Belgique, pour la chimie. Et au bout du compte, bien sûr, le consommateur européen qui paierait la note.
Ce scénario, il révèle aussi une Europe très divisée, non?
Les réactions décrites sont aux antipodes.
Totalement. C'est une fracture béante qui est mise en lumière. D'un côté, la France. La source cite une réaction attribuée à François Bayrou qui parlerait de soumission, de capitulation.
Et de l'autre, l'Allemagne.
Oui, via une citation attribuée à Friedrich Merz qui considérerait que c'était le mieux qu'on pouvait obtenir face à Trump. Deux visions radicalement opposées.
Et les autres pays? L'Italie?
L'Italie de Giorgia Meloni soutiendrait officiellement l'accord, mais, d'après la source, elle aurait négocié des garanties en coulisses. Et tout ça mettrait Ursula von der Leyen dans une position très difficile, critiquée pour avoir négocié un peu en solo, sans mandat très clair des États membres.
Ça montre une Europe qui peine à parler d'une seule voix, quoi.
C'est exactement ce que souligne l'analyse.
Au-delà de l'économie immédiate, quelles seraient les implications stratégiques plus profondes de tout ça? Alors là, la source est très directe. Ce serait l'installation durable d'une triple dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis, commerciale, énergétique et militaire. La fin de l'autonomie stratégique dont on parle tant.
Ce serait ça, oui. La fin de ce concept. L'Europe deviendrait, pour reprendre les mots assez forts de la source, un satellite américain.
Et les marchés financiers y réagiraient comment à long terme? Quel conseil serait donné?
Le conseil rapporté est assez brutal. Surpondérer l'énergie et la décence américaine, acheter du dollar. Et à l'inverse, éviter les entreprises exportatrices européennes, l'automobile européenne, les PME cotées en Europe. En gros, achetez l'Amérique, vendez l'Europe.
Dur.
Quelques exceptions quand même. Les entreprises européennes qui sont déjà très bien implantées aux États-Unis ou celles liées à la logistique du GNL pourraient tirer leur épingle du jeu. Donc, pour résumer ce scénario analysé par la source, l'Europe, en quelque sorte, accepterait une dépendance beaucoup plus forte vis-à-vis des USA pour acheter une forme de stabilité, mais une stabilité qui coûte très cher. C'est l'idée. La source utilise cette formule choc. On a troqué Poutine contre Trump. Avec ce nouveau tarif de 15% comme socle de la relation.
Une dépendance subie ou peut-être choisie par défaut qui redéfinirait complètement notre place dans le monde.
Exactement.
Alors, ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve, au-delà du coût économique, au-delà de la dépendance immédiate. Si un tel accord devait se matérialiser un jour, quelle trajectoire ça dessinerait pour l'Europe sur le long terme? Surtout face aux tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, est-ce que ça voudrait dire renoncer définitivement à l'idée d'une Europe comme pôle indépendant, comme acteur stratégique à part entière? C'est une question ouverte, mais essentielle.
Tout à fait. De quoi réfléchir pour l'avenir.